Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à l'émission. Alors, ce matin, nous allons parler de la situation financière des paroisses et du diocèse. Alors, bonjour, Monseigneur.
Bonjour, Ghislaine.
Alors, avec Monseigneur Champagne, nous allons regarder un peu cette question. Alors, Monseigneur, nous savons que depuis 2 ans, on vit dans une époque de pandémie, un temps de pandémie, et les églises ont été fermées à quelques reprises. Puis on se pose souvent la question, comment se porte la situation financière des paroisses et du diocèse?
Bien, il faut dire que même avant la pandémie, on était dans une situation fragile, OK? Alors, c'est sûr que la pandémie nous est tombée dessus, avec des confinements totaux ou avec une limite de nombre de personnes qui pouvaient venir. En même temps, les gens à risque ont cessé de venir à l'église. Ça veut dire qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de personnes dans nos célébrations. Et veut pas, ça se traduit, évidemment, dans les quêtes qui ont lieu à ce moment-là, ce qui veut dire que les revenus des églises ont été limités, ont chuté. Parfois, avec la prestation salariale, on a réussi à aller chercher un certain montant pour payer nos prêtres. Mais il reste que, globalement, les finances de chacune des paroisses sont fragilisées. Et de fait, dans le dernier mois, des représentants qui s'occupent de cette question matérielle des églises sont venus me rencontrer pour me signaler les difficultés qu'ils rencontraient.
Alors, les paroisses rencontrent des difficultés, puis là, les paroisses, normalement, elles ont été contribuent aussi à... C'est les paroisses qui contribuent au financement, au fonctionnement du diocèse.
Bien, c'est tout imbriqué. Dans notre diocèse, c'est comme un genre d'impôt sur le revenu qu'on appelle la cathédratique. Cathédratique, c'est en lien avec la chaise de l'évêque, la cathèdre, c'est la même idée que la cathédrale. Alors, c'est sûr qu'un diocèse crée des paroisses et les paroisses soutiennent, on pourrait dire, ce qui est le cœur du diocèse, ce qui est le cœur, qui est le diocèse. Donc, c'est sûr que ça a à la fois un impact sur les paroisses, évidemment aussi sur le diocèse, qui compte son principal revenu. C'est une contribution des paroisses.
Donc, en d'autres mots, si les paroisses disent, bien, on ne peut plus vous payer la cathédratique, bien, le diocèse n'a plus d'argent pour fonctionner. En d'autres mots, c'est
un peu ça qui est le défi. Alors, comment à la fois assurer la santé des paroisses et la santé du diocèse?
Puis le diocèse, c'est super important. Les paroisses ne peuvent pas exister si le diocèse ne fonctionne pas. Puis le diocèse offre des services aux paroisses. C'est quoi les principaux services que le diocèse offre aux paroisses?
Ben, mon Dieu, c'est sûr qu'au niveau de la transmission de la foi, toute l'éducation de la foi, la catéchèse, il y a des ressources offertes aux paroisses dans le diocèse. Durant la pandémie, on n'a pas eu de session de formation pour les gens engagés en Église, les bénévoles. Mais les années qui ont précédé la pandémie, on faisait venir des gens pour nous aider à approfondir des thèmes. Tu sais, on a du travail sur la liturgie. En même temps, on a des gens qui s'occupent de la pastorale familiale, préparation au mariage, la question même de l'engagement social des chrétiens, tout ce qui touche l'engagement auprès des démunis. La préoccupation de rejoindre la jeune génération, qui est un défi pour toutes nos églises en Occident, on a quelqu'un qui porte ce dossier-là. Le pape François nous a fait découvrir toute l'importance de l'écologie pour nous, les croyants, les catholiques. Si on veut vivre notre foi puis vivre notre vie, bien, il faut que notre maison commune, notre planète, soit en santé aussi. Donc, il y a des dossiers un peu sur chacun de ces éléments-là. Dans chaque diocèse, il y a aussi ce qu'on appelle la chancellerie, c'est-à-dire de s'assurer que tout ce qui se fait dans le diocèse est conforme à la loi de l'Église. Alors, il y a des documents officiels. Alors, il faut des gens qui sont préparés pour connaître ce domaine-là. Au diocèse, il y a aussi un tribunal ecclésiastique dans les causes de déclaration de nullité de mariage. Alors, tous ces éléments-là font partie des services que le diocèse offre. Puis évidemment, on a des gens responsables des finances du diocèse qui vont prêter main forte parfois à des gens qui travaillent dans les paroisses sur la façon de comprendre comment ça gère une paroisse. Hein, parce que dans notre diocèse, comme dans l'ensemble du Canada, États-Unis, sauf Québec, c'est une corporation légale. On a une existence au niveau de la loi, mais on appelle ça le corporate soul. Ça veut dire que la seule personne qui est ultimement responsable, c'est l'évêque catholique romain du lieu. Alors, il y a un petit peu tout ça là, qui tourne autour, donc tous les services qui sont offerts.
Alors, tous ces services-là, c'est bien entendu, ne peuvent pas fonctionner avec seulement des bénévoles. On sait qu'il y a bien des bénévoles qui sont impliqués dans différents comités au niveau du diocèse, autant des finances que des services, différents services de la pastorale. Mais ça ne peut pas juste fonctionner avec des bénévoles. Ça prend aussi, à un moment donné, des personnes qui sont rémunérées à temps plein ou à temps partiel aussi.
Oui, ça prend quelques personnes. Il faut dire que Edmundston m'avait frappé quand je suis venu ici, il y a maintenant près de 14 ans, là, quand je suis venu la première fois. Ce qui m'avait frappé, c'était le nombre de laïcs engagés en Église, qui, pour la plupart d'entre eux, étaient des bénévoles. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'une certaine stabilité et qu'on a besoin de soutenir un certain nombre de personnes qui travaillent au diocèse. Comme je dois m'assurer, moi, que tous mes prêtres reçoivent leur salaire puis ont une vie décente. Alors, tout ça, ça vient un peu de l'argent qu'on reçoit des paroisses pour le redistribuer et soutenir les quelques personnes qui travaillent au service de l'Évangile dans le diocèse d'Edmundston.
Alors, finalement, c'est comme important que les gens dans les paroisses soient sensibilisés à la situation financière des paroisses actuellement, qui est très fragile, qu'on peut dire même critique peut-être, puis inviter peut-être les gens à contribuer financièrement.
Bien, les gens qui sont en mesure de le faire. Tu sais, la crise actuelle, la pandémie, l'inflation, ça touche une foule d'entre nous. Et il y a des gens qu'on ne peut pas leur demander de contribuer parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Mais il y a peut-être d'autres gens qui sont moins touchés par la crise, qui tiennent à cette communauté chrétienne, puis au lieu de culte, bien, c'est un appel à ces gens-là qui sont en mesure de nous aider de le faire. Il y a des gens qui viennent régulièrement contribuer. Il y a des gens qui viennent à l'occasion, mais quand ils ne sont pas là, s'ils pensaient à un moment donné contribuer, il y a d'autres gens qui viennent presque pas, mais qui comptent quand même sur l'Église à des moments importants de leur vie. Mais s'ils souhaitent que l'Église soit là pour eux, bien, ça serait important, en tout cas, que l'Église puisse traverser les moments difficiles qu'on vit maintenant.
Parce que finalement, moi, je pense que la majorité des gens de notre région, de notre diocèse, tiennent à ce que leur paroisse continue d'exister, à ce que l'Église soit ouverte, qu'il y ait un prêtre qui travaille avec eux autres, comme des gens engagés aussi. Alors, c'est finalement important aussi, si on veut que tout ça continue, bien, qu'il faut vraiment contribuer financièrement.
On avait fait une tournée avec Soredna puis un membre du Conseil des affaires économiques une année ou deux avant la pandémie. Et l'ensemble des gens nous disaient, nous voulons maintenir notre communauté. Et moi, je leur disais, il y a deux choses pour qu'une communauté demeure. Il faut une communauté dynamique, rayonnante, engagée. Puis également une communauté qui a financièrement la possibilité d'assurer les factures, d'être capable de payer les dépenses que ça coûte, pour assurer que ces lieux de culte sont chauffés, éclairés, alors qu'on est en mesure de fonctionner. Alors, à ce moment-là, l'ensemble des paroisses qu'il y a dans le diocèse ont dit, nous voulons poursuivre la route en ayant ce rayonnement et on pense être en mesure d'assumer les frais. Il faudra vérifier après la pandémie, mais en tout cas, pour le moment, il est sûr qu'on espère un soutien de la part des communautés.
C'est sûr, je pense qu'il faut réaliser que si le diocèse de Montréal n'a plus d'argent pour fonctionner, si le diocèse doit fermer les portes, on pourrait dire, ça veut dire que les paroisses ne peuvent pas fonctionner non plus. Alors, si on veut que nos paroisses continuent de fonctionner, bien, il faut que le diocèse aussi puisse continuer de fonctionner. On n'est peut-être pas rendu à parler de fermeture du diocèse puis des paroisses, mais je me dis qu'il faut quand même y penser. Alors, Monseigneur, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, le temps passe vite, c'est écoulé. Alors, je vais terminer avec les annonces de la semaine. Alors, aujourd'hui, ce soir, il y a une soirée d'adoration à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs à 19h et célébration du pardon à 18h30. Mardi le 26, il y a une réunion de la Commission épiscopale pour la justice et la paix. Monseigneur Champagne y participe. Mercredi le 27, il y a deux réunions. Le comité diocésain de solidarité et de justice sociale de 13h30 à 15h au centre diocésain et le comité diocésain pour les affaires économiques au centre diocésain à 19h. Samedi, Mgr Champagne présidera une célébration eucharistique à l'église de Saint-André à 16h. C'est à l'occasion du 40e anniversaire des filles d'Isabelle de Saint-André et cette célébration sera suivie d'un souper. Alors, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et passez une excellente semaine.